Oh, elle est toute timide. Elle a sorti des super sons au chauffard. Hein. Elle souffle largement mieux que moi. Elle a fait de la flûte.
Ouais, c'est de la corne de gazelle.
De gazelle, ouais. Alors d'une espèce de gazelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, du coup, non. Ah bon, ok, d'accord. Bon, bah, tant pis. Ok. Alors, donc oui, le chauffard, oui, c'est vrai. Le chauffard, c'est un instrument qu'on rencontre dans l'Ancien Testament déjà, hein, qui sert à annoncer la victoire, hein, qui sert à proclamer la victoire. C'est un instrument de combat, hein, parce que au moment des combats, au moment des guerres, bah, voilà, c'était une manière aussi de proclamer la victoire du Seigneur. Hein, comment, quand les Israélites sont allés autour de Jéricho, hein, il y avait des personnes les prêtres qui soufflaient du chauffard et puis les murailles sont tombées. Hein, Dieu a donné la loi sur le mont Sinaï, on entendait les sons du chauffard. Et puis, par exemple, on était dans un culte avec des juifs messianiques où là, pendant la louange, voilà, au début du culte, on sonnait le chauffard. Et puis, pendant la louange, à plusieurs reprises, on sonnait le chauffard. Voilà. Pour rassembler, voilà. Mais bon, la prédication ne portera pas sur le chauffard aujourd'hui. Hein. Donc, le premier lieu où on a atterri dans ce voyage d'Israël, alors, on donnera plus d'explications sur ce voyage lors de cette soirée mardi dans 15 jours. Peut-être qu'il y en aura une autre aussi. Je ne sais pas si une soirée suffira. Mais pendant les prédications, j'essaierai quand même de vous donner quelques éléments, tout en continuant sur ce thème de la dépendance à Christ. Hein. Vous vous souvenez que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc sur plusieurs messages, je suis venu parler de la dépendance à Christ. On a vu que dépendre de Jésus, c'est notamment méditer sa parole, c'est se nourrir de sa parole régulièrement, quotidiennement. Voilà, ça fait que l'on dépend toujours plus de Jésus-Christ. On a vu aussi, au travers de cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, que bah, Jésus, que le Seigneur, par son esprit, veut répondre à nos besoins. Peut-être pas forcément comme nous, on le voudrait ou on s'attendrait, mais en tout cas, il prend en considération nos besoins, hein, et il vient agir en nous par son Saint-Esprit, nous remplir par son Saint-Esprit. Donc voilà, donc je vais continuer sur ce thème-là. Pourquoi est-ce que je vous montre cette carte? Donc c'est par rapport au début du voyage. Nous avons commencé en fait à Tel Aviv. Hein. Donc Tel Aviv, c'est la capitale d'Israël. Alors c'est la capitale d'Israël pour les nations, c'est la capitale d'Israël officiellement, mais pour un juif, pour un Israélite, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Mais pour les nations en particulier, Tel Aviv est la capitale. Et pourquoi je vous parle de Tel Aviv? Qui sont ces personnes? En fait, voilà, vous avez ici 60 familles juives. À côté de Tel Aviv, vous avez juste à côté la ville de Jaffa. En fait, Tel Aviv, avant Jaffa, n'existait pas. Jaffa, c'est une ville dont il est question, hein, dans la Bible. Donc là, nous sommes au début du XXe siècle, dans les années 1900. À cette époque-là, Israël était sous le régime de l'Empire ottoman, l'Empire musulman. Hein. Et il y avait une loi, notamment, qui faisait que les Juifs devaient changer de logement tous les ans. C'était quelque chose qui était là pour qu'ils ne s'attachent pas à leur terre. Et à un moment, ces familles juives, ces 60 familles juives en ont eu marre. Et elles ont acheté des dunes de sable qui étaient juste à côté de Jaffa. Voici les dunes. Et l'Empire ottoman leur a vendu ces dunes en leur disant, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de dunes de sable? Voilà, on va. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de dunes de sable? Un siècle après, voilà, voici ce que ça donne. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est la renaissance d'Israël. La renaissance d'Israël a commencé à Tel Aviv, par Tel Aviv. Et là, je vois vraiment la puissance de résurrection de Dieu. En fait, ces familles juives, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont décidé d'écouter cette vie que Dieu a mise en eux. Elles ont décidé d'écouter, de vivre selon les désirs qui viennent de Dieu et que Dieu a mis en eux. Parce que pourquoi? Parce qu'il fallait que la parole biblique s'accomplisse. C'était ce qui s'est passé là, c'est l'accomplissement de la parole biblique, comme quoi les Israélites allaient retrouver leur terre. C'est ce qui s'est passé en 1948. Et nous sommes dans un monde où souvent, le monde veut nous empêcher de vivre ces désirs que Dieu y met en nous. Quand on rencontre Dieu, et si tu ne connais pas Dieu ce matin, si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, eh bien, je t'invite à lui ouvrir ton cœur. Quand on rencontre Jésus-Christ, quand on l'accueille dans notre vie, c'est tout un bouillonnement de vie qui vient. La vie Zoé, comme dirait notre cher pasteur. La vie Zoé. Mais c'est quelque chose, c'est énorme, c'est énorme. Mais nous sommes dans un monde qui veut étouffer cela, qui veut écraser cela. Et la question ce matin, est-ce que tu laisses le monde, est-ce que tu laisses l'esprit de ce monde venir étouffer cette vie que Dieu met en toi? Je voudrais revenir sur un texte dans le Nouveau Testament. Du coup, c'est une rencontre que fait Jésus. Donc on va lire le texte, c'est dans Jean 5. Dans Jean 5, les versets 1 à 9. Donc je vous lis ce passage, Jean 5, les versets 1 à 9. Après cela, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait guéri le fils d'un officier. Il était en Galilée. Et là, donc, après la Galilée, il monte à Jérusalem. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. 1, 2, 3, 4, 5. On voit les portiques. Enfin, je ne sais pas, remarque si c'est ces portiques-là. Voilà. Ce n'est pas un endroit qu'on a pu voir, la piscine de Bethesda. Hein, mais voilà, on a été à côté, on a voulu rentrer et puis on n'est pas tombé dans les bons horaires. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. C'est intéressant de savoir que ce passage sur l'ange, en fait, ce sont des passages qui existent dans certains manuscrits et pas dans d'autres. Là se trouvait un homme infirme. Toujours est-il que ces gens qui étaient malades, ils attendaient quelque chose dans cette piscine. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Ou littéralement, il lui a dit « Veux-tu devenir sain ?» S-A-I-N. « Veux-tu devenir bien portant ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton grabat, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Alléluia. Donc nous sommes ici à la piscine de Bethesda avec ses 5 portiques. 5 portiques où s'amoncellent des personnes en fait, où se rassemblent des personnes, où s'entassent, je devrais plutôt dire, des personnes, des aveugles, des estropiés, des gens, la parole nous dit, qui sont desséchés, paralysés, des gens, il y a diverses maladies. C'est le théâtre de la souffrance humaine. C'est le théâtre de la souffrance humaine. À quoi ça correspondrait, par exemple, aujourd'hui? Ça pourrait être, par exemple, Idoménie. Idoménie, cette frontière entre la Macédoine ou la Grèce, où s'entassent des personnes qui fuient un pays ravagé par la guerre. Et comme ces malades à la piscine de Bethesda qui attendaient le mouvement de l'eau pour qu'il y en ait qui puisse se jeter et puis, hop, être miraculeusement guéri, voilà. Il y a toutes ces personnes qui fuient un univers ravagé, qui attendent quelque chose, qui attendent une vie différente, qui attendent une vie qui ne soit pas ravagée. Voilà un peu ce que pourrait être Bethesda aujourd'hui. Et dans cet endroit, à Bethesda, la parole nous dit qu'il y a un homme qui est là, et la parole insiste, depuis vraiment longtemps. Il est là depuis 38 ans. 38 ans. 38 ans que cet homme est malade et qu'il attend au bord de cette piscine que quelqu'un veuille bien, parce que sa maladie fait qu'il ne peut pas se déplacer très vite ou qu'il ne peut pas vraiment bouger. Il attend que quelqu'un vienne, ait la compassion de le prendre et de le mettre dans cette eau dans laquelle il espère pouvoir qu'il y a une source de guérison. Est-ce que c'était une croyance populaire? Est-ce que, bon, on ne sait pas exactement. D'autant plus qu'on voit que c'est des passages qui sont rajoutés dans certains manuscrits. Alors voilà. Mais bon, toutes ces personnes-là, elles attendaient en tout cas. Elles avaient un espoir là-dedans. Et donc, il y a cet homme qui est là. Cet homme qui, finalement, il attend quelqu'un vienne le plonger dans l'eau, mais il n'y a personne. Cet homme, il n'est rien. Il n'est plus rien. Cet homme, c'est comme si il n'existait plus. Il n'existe plus pour les autres. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, quelqu'un comme cela, à l'ère où voilà, on a les réseaux sociaux, ou en tout cas en Occident en particulier, où voilà, on est tout le temps connectés les uns aux autres, voilà, où on a WhatsApp, on a différentes choses, on est tout le temps connectés. Imaginez, cet homme, ça serait par exemple quelqu'un qui a une page Facebook, mais personne ne va jamais la regarder. Personne ne va mettre un like. Vous savez qu'avec tous ces moyens technologiques, avec tous ces réseaux sociaux et tout ça, chez certains, ça développe même un syndrome, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le principe de syndrome, c'est qu'on a l'angoisse et on ne veut absolument pas louper une info qui passe sur Facebook ou tout ça. Voilà. Parce que voilà, sinon on est déconnecté avec le monde humain, quoi. Mais ça va jusque-là, ça va jusque-là. Cet homme-là, il n'a plus aucune connexion. Cet homme, il n'existe plus pour personne. Et là, on voit Jésus qui vient le rencontrer. On voit Jésus qui vient le rencontrer et qui lui pose une question, mais vraiment une question bizarre. À un homme qui est là depuis 38 ans. Imaginez un moment où on ne s'est pas intéressé à vous dans votre vie. Un moment où vraiment vous êtes senti seul. Un moment où vous avez dit, mais qu'est-ce que je fais là? Finalement, personne n'en a rien à fiche de moi. C'est pas évident à vivre, des choses comme ça. Ça fait pas plaisir, c'est pas agréable. Mais ce gars-là, lui, il vit ça depuis 38 ans. Et Jésus s'arrête et lui pose cette question, alors que ce gars, il est malade. Veux-tu être guéri? Quand même bizarre. Veux-tu être guéri? À quelqu'un qui est malade comme ça depuis 38 ans, on se dit, mais c'est évident qu'il veut être guéri. Et pourtant, Jésus lui pose la question. Pourquoi est-ce qu'il lui pose cette question? C'est que ce qui ne va pas chez cet homme, il est tellement sous le poids de la maladie, des difficultés, qu'il a perdu finalement espoir. Il se dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait me plonger dans l'eau, mais il a perdu tout espoir. Il a perdu tout espoir en l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité peut pour lui? Et en fait, le problème pour cet homme, c'est qu'il a perdu tout désir. Il n'a plus de désir. Il n'ose plus désirer. Il est résigné. La parole dit qu'il est possédé, ayant sa maladie en lui, ou possédant sa maladie en lui. C'est sa maladie qu'il possède. Vous savez, souvent, quand on dit « ma maladie », « mes problèmes », « mes difficultés », comment on s'approprie les choses? Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui nous concerne, mais peut y avoir quelque chose de spirituel là-dedans. J'y reviendrai plus tard. Mais voilà, en tout cas, ouais, il lui pose cette question. « Veux-tu être guéri ?» Parce que cet homme, il ne désire plus, il n'a plus de désir. Et parfois, on peut être dans cette... il vient faire quoi? Il vient réveiller le désir en lui. Et parfois, nous, on peut être, même en tant que chrétien, dans quelque chose quand on dit « si Dieu veut ». Mais ça, parfois, c'est faux. On croit qu'on est dépendant à Christ, mais ce n'est pas vrai. Des fois, on le dit d'une manière où c'est une manière de dire « je préfère que Dieu y décide à ma place ». Je préfère que Dieu il soit responsable de ma vie à ma place. C'est pas la même chose. Quand Jésus il vient dire, quand il est dans le jardin de Gethsémané, et qu'il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il ne s'adresse pas aux désirs de vie que Dieu il a mis en lui. Ces désirs de vie qui chez cet homme malade depuis 38 ans, sont étouffés, sont éteints. Non, il s'adresse au désir de la chair. Quand Jésus dit ça, il s'adresse au désir de la chair. Il s'adresse à ce qui en lui pourrait être rebelle à Dieu. Ou en tout cas, la chair en nous qui est rebelle à Dieu, qui ne veut pas de Dieu. C'est finalement, Jésus, il avait la chair, il était tenté, mais il n'a pas péché. Et il y avait un combat en lui, quelque chose qui voulait l'empêcher d'aller au bout de sa mission. Et c'est à ces désirs-là, lui, qu'il s'adresse. Mais pas au désir de vie que Dieu a mis en lui, pas à cette vie de l'esprit que Dieu a mis en lui. Et parfois, nous, on peut être dans, je ferai ça si Dieu veut. Je me souviens à un moment, quand avec Estelle, on se demandait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retourne en France auprès de nos familles ? Parce que ça nous a coûté de nous séparer de notre famille, de nous dire, nos familles, elles sont à plusieurs heures de route. Et en même temps, on voulait être là. Et il y a des moments où on disait, on attend que Dieu nous dise. Alors bien sûr, c'est en même temps, quelque part c'était juste, parce qu'il fallait que ça mûrisse. Mais je me souviens un moment, on a discuté avec des amis, et la question qui est venue, c'est, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Et vous, qu'est-ce que vous voulez ? Et bien sûr, je savais qu'il fallait que je réponde à cette question. Mais au moment où il y a eu cette question, là, ça a été le déclic. Mais oui, voilà nous ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, c'est vivre le ministère avec le Seigneur, même si ça doit nous coûter, c'est ce que nous voulons. Et souvent, Dieu, quand il dit, mais veux-tu être guéri ? C'est ça qu'il nous demande, c'est ça qu'il demande à chacun. Qu'est-ce que tu veux ? Toi, qu'est-ce que tu veux ? Arrête de demander, de désirer par procuration pour toi. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai mis ma vie en toi. Il y a des rêves que j'ai mis en toi. Il y a mes rêves que j'ai déposés en toi. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux les vivre ? Et Jésus vient réveiller le désir chez cet infirme qui dit, mais moi, il n'y a personne pour me mettre dans l'eau. En fait, il réalise que quelque part, il comptait en fait sur une grâce humaine. Mais la grâce humaine, vous voyez, elle est limitée. La compassion humaine, elle est limitée. Ici, dans cette piscine de Bethesda, tout le monde est tellement en train de crever, tout le monde est tellement en train de souffrir, ça pue, c'est ça qui se passe dans cet endroit. Que tout le monde est enfermé dans sa souffrance. Et tout ce qui compte, c'est pas l'autre. C'est moi que je puisse m'en sortir. À côté, il y a une fête juive. Les gens sont dans la réjouissance. Personne n'en a cure de ces gens qui sont là. Tout le monde s'en fiche. La grâce humaine, elle est limitée. Bethesda, ça veut dire la maison de la grâce. Maison de la grâce. Elle est où la grâce ? Elle est où la grâce dans cet endroit ? La grâce, elle arrive dans cet endroit. Au travers de Jésus-Christ. C'est là que la grâce, elle arrive. Qui voit cet homme, et le texte le dit, voyant ou sachant qu'il était là depuis longtemps. Il y en a même qui traduisent « apprenant qu'il était là depuis longtemps ». Moi, je préfère « sachant qu'il était là depuis longtemps ». Ça veut dire que Jésus, il voit quelque chose en esprit. Il voit chez cet homme, il le regarde et il connaît sa vie. Il a déjà tout compris. C'est comme ça qu'il nous regarde. Il nous regarde, il a déjà tout compris, il sait déjà tout. Il sait où on en est, il sait où tu en es. C'est qui la maison de la grâce ? C'est Jésus. C'est lui la maison de la grâce. C'est qui Bethesda ? C'est Jésus. Yeshua Machiar, Jésus le Messie, c'est lui la maison de la grâce. C'est la grâce qui s'arrête dans cet homme et un moment qui lui dit, mais alors si tu veux être guéri, si tu veux, lève-toi, prends ton grabat, prends ton brancard, prends ce lit sur lequel tu t'es couché depuis ces 38 ans, qui représentait souffrance, ne laisse pas ces choses-là t'écraser, mais lève-toi et marche. Et marche. C'est Jésus qui lui dit ça. Jésus qui, à un moment, Jésus, il avait la vie en lui, il avait bien sûr la vie de Dieu en lui. Il y avait un combat, mais il avait la vie de Dieu en lui. Et il avait ses désirs de vie en lui. Et c'est ça qui l'a poussé à aller jusqu'au bout. Cet endroit de la piscine de Bethesda est où ? C'est juste après la porte des brebis qui marque le début du trajet, de ce qu'on appelle la Via Dolorosa, le chemin sur lequel Jésus a marché en portant la traverse de la croix. Jésus, quand il est à la piscine de Bethesda, il est juste à côté de l'endroit où un moment, il va passer de nouveau par la porte des brebis. Pourquoi la porte des brebis? Parce que c'est par là que les troupeaux des animaux passaient. Et donc, les animaux, ils passaient pourquoi notamment, certains animaux, pour aller au temple être sacrifiés. Et Jésus, quand il passe par la porte des brebis, c'est l'agneau de Dieu qui doit être sacrifié. Et Jésus, lui, n'a pas renoncé. Il n'a pas laissé la chair étouffer ce désir de vie que Dieu avait mis en lui. Il a décidé de passer par cette porte de brebis. Il a décidé d'emprunter ce chemin, la Via Dolorosa. C'est l'endroit où on pense qu'il a été flagellé. Il s'est laissé flageller. Il s'est laissé torturer. Voilà la porte des brebis. Et voilà, si vous continuez plus loin, vous avez la Via Dolorosa qui continue. C'est une vue avec la porte des brebis derrière. Et Jésus, il a accepté de marcher ce chemin qui l'a conduit jusqu'au tombeau. Le jardin du tombeau, c'est un endroit où on pense que Jésus, ça pourrait être le tombeau où Jésus est mort, juste à côté du Golgotha, où il a été crucifié. Le premier qui vraiment n'a pas renoncé à désirer, mais qui allait jusqu'au bout de son désir, qui a porté son désir, c'est Jésus. Parce qu'il savait ce qu'il y avait au bout. Ce qu'il y avait au bout, c'était la résurrection. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le garder dans le tombeau. Bien sûr, c'était difficile d'assumer ce désir jusqu'au bout. Il a fallu souffrir pour cela. Et il y a des fois, voilà, on sent quelque chose il y a quelque chose en nous, mais c'est un défi que de le relever. Et ça peut être notre croix. Et Jésus, il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il savait qu'au bout, ce n'était pas seulement sa résurrection, mais c'était la résurrection de nous tous. C'était la résurrection de tous ceux, de tous les êtres humains qui acceptent de recevoir sa vie. Parce qu'il nous aime chacun, il veut que chacun nous choisissions la vie. C'est ce qui s'est passé pour ces familles juives. Elles auraient pu se dire, quoi ? On nous donne des dunes de sable ? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces dunes de sable? Mais c'est nul, mais ouais, autant qu'on laisse tomber, ça sert à rien. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Il y a eu des travaux de terrassement. Il y a des images, on voit des ânes, tout ça, qui transportent des charges. Ils ont enlevé une partie du sable. Voilà, ils ont commencé des travaux de terrassement. Et c'est devenu vivant. Vous avez vu l'image de tout à l'heure. Et Jésus, il nous dit la même chose qu'à ces familles, elles sont un exemple pour nous. Est-ce que tu oses porter la vie? Est-ce que tu oses désirer ce que Dieu il a mis en toi? Même s'il y a des choses qui sont difficiles. Mais une chose que j'ai appris dernièrement, souvent, je disais, on me dit ma maladie, mes problèmes, mes difficultés. Moi, je dis plus ça. J'essaye de ne dire plus ça. J'essaye de dire mes défis. Non pas mes difficultés, mais mes défis. Et c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose, je ne vois pas ça comme une montagne qui, hop, écrasante, mais une montagne que j'ai à gravir. Et c'est comme ça que Jésus a vu ce chemin de croix qui était devant lui. C'est comme ça que ces familles juives, elles ont vu ces dunes de sable qu'elles ont achetées. Vous savez, cet endroit qui s'appelle la porte des brebis, qui s'appelait la porte des brebis. Aujourd'hui, elle ne s'appelle plus la porte des brebis. Elle s'appelle la porte des lions. Je ne sais plus pourquoi, comment elle a été rebaptisée la porte des lions. Et tu sais pourquoi ils ont mis des lions? Voilà, les lions, c'est les symboles de Jérusalem. Et moi, j'y ai vu autre chose en plus. Quand ça passe des portes des brebis à la porte des lions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes plus les brebis. Ceux qui sont en Christ ne sont plus les brebis qu'on mène à l'abattoir. Ça y est, Jésus, c'est l'agneau qui a été sacrifié. Tu n'es plus la brebis qu'on mène à l'abattoir. Non, tu es un lion. Amen. Tu es un lion. Nous sommes des lions. Nous sommes des lions qui rugissons. Ah, wow. Nous sommes des lions qui laissons cette vie de Dieu qu'il a mis en nous se déployer malgré les difficultés. Amen. Là, on a eu des soucis avec les voisins concernant notamment les soirées Zarak. Ben, ça n'a pas empêché les jeunes de se dire, bah, on va pas se laisser faire, non pas que, voilà, on va continuer et puis on va embêter les voisins. Non, c'est pas ça. Mais ben, puisque c'est ça, on va trouver un autre lieu. Et ils se sont mis en lien avec la maison des bulles, avec Leïla. Et donc, ça, la prochaine se fera là-bas, 13 mai. La prochaine se fera... Mais vous voyez ? Et puis, et si, à un moment, la maison des bulles, c'est pas assez grand, eh ben, on ira ailleurs. Bien sûr, on va prendre en compte ce que les voisins nous disent. Il s'agit d'être des témoins. Mais il s'agit pas de renoncer à la vie de Dieu que Dieu a mis en nous. Il s'agit pas de renoncer au désir que Dieu a mis en nous. Comme cet homme qui a, pendant 38 ans dans la maladie, a fait parce qu'il était écrasé sous le poids de cette maladie. Il y a des choses, oui, qui veulent nous écraser. Il y a des choses qui veulent nous étouffer. Mais cette vie de Dieu en nous, elle est plus forte. Elle est plus forte. Amen. Nous cherchons des locaux pour cette église. Nous voulons des locaux. Nous sommes en train de voir pour des locaux aux Éplatures. Je ne sais pas si ce sera ces locaux. J'espère. Mais si ce n'est pas ces locaux, ça en sera d'autres. Parce que nous portons la vie de Dieu en nous. Et la vie de Dieu, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour se déployer. Elle est faite pour se développer. Elle est faite pour croître. Nous sommes faits pour croître. Nous croyons que cette vie, elle est là pour se développer. Mais mes amis, et ça c'est vrai, quel que soit, je parle de défis de l'Église. Toi, tu connais tes défis dans ta vie. Il y a peut-être des personnes, par exemple, qui sont déçues de l'Église. Parce qu'il y a des choses qu'ils aimeraient voir changer, puis ils ne voient pas ça changer. Et puis à un moment, du coup, ils disent, ouais, je laisse tomber. Non, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber parce que ce qui brûle en toi, c'est Dieu qui le met. Ce désir de justice, ce désir qu'il y ait quelque chose qui change, c'est Dieu qui le met. Il y a des personnes qui ici peut-être ont des difficultés dans leur famille, je ne sais pas, et qui se disent, à quoi bon, je laisse tomber. Non! Ne laisse pas tomber. Amen. Merci Laurie. Ne laisse pas tomber. Le monde fera tout pour t'étouffer et t'écraser. Mais Dieu fera tout pour te relever. Mais Dieu te dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Ça veut dire, c'est à partir du moment où moi je veux, où moi je désire, où j'accepte de porter cette vie de Dieu en moi, d'assumer ce désir et d'être responsable de ma vie avec Dieu, qu'à partir de ce moment-là, Dieu fait le reste. Amen. Et mes amis, ces locaux, est-ce que nous les voulons ?
Oui !
Est-ce que nous voulons grandir ?
Oui !
Alors si nous le désirons vraiment, Dieu va agir. Amen. Amen. On va prier, puis on va prendre le temps. On va prendre le temps du repas avec le Seigneur. On va pouvoir déposer aussi toutes ces choses. Toutes ces choses que là, le Seigneur est venu vous dire. Tout ce qu'il est venu remuer dans votre cœur ce matin, dans notre cœur ce matin. Seigneur, on se pose devant toi. Et Seigneur, j'ai envie de te dire merci. Te dire ma reconnaissance pour cette vie éternelle que tu as mis en chacun d'entre nous ici. Pour cette vie éternelle que tu veux mettre dans des personnes qui peut-être ici, écoutez, ça vous concerne, n'ont pas reçu cette vie de Dieu. Si tu n'as pas reçu cette vie de Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, ou si tu te rends compte que, en fait, non, ben, je croyais le connaître, mais c'était religieux. En fait, je n'ai pas vraiment de relation avec lui. Alors, tu peux accepter, là, maintenant, Jésus-Christ, dans ta vie, tu peux lui dire, mais Jésus, je veux te connaître. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et là, si tu fais cela, cette vie de Dieu qui ne laisse pas le monde étouffer, écraser, elle va venir en toi. Et je te remercie, Seigneur, pour les personnes, nous tous, la plupart des personnes ici qui ont fait ce choix de te recevoir dans leur vie.
Oui, c'est pas facile. C'est pas facile d'oser désirer. C'est pas facile d'oser vivre cette vie que l'on a en soi, que tu as mis en nous, parce que le monde s'y oppose. Mais Seigneur, tu as vaincu l'esprit de ce monde. Et nous te louons, Seigneur, nous te remercions. Et je te remercie pour chacun ici. Et je te prie que chacun ici puisse repartir. S'il y a des personnes comme ça, si vous étiez étouffés, écrasés, si vous aviez laissé tomber, maintenant, dans le nom de Jésus, que vous soyez renouvelés par son esprit. Maintenant, dans le nom de Jésus, que vous soyez consolés. Maintenant, dans le nom de Jésus, que vous soyez relevés. Et que vous puissiez entendre cette voix du Seigneur qui vous dit, veux-tu maintenant te remarcher? Toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux remarcher? Et je te prie, Seigneur, que chacun puisse entendre cette voix que tu as pour lui. Alors, si c'est ça que tu veux, lève-toi, prends ton brancard, prends tout ce qui représentait tes souffrances et marche. Et marche. Ne laisse pas ces choses-là t'écraser, mais au contraire, que tu te fixes sur Dieu, que tu t'appuies sur lui. Que ce ne soit plus tes difficultés, mais que ce soit tes défis. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.